VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel de 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. RDC, le président Joseph Kabila pourra rester en fonction au-delà du terme de son mandat fin 2016 si l'élection présidentielle n'a pas lieu. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle qui répondait à une requête en interprétation déposée par la majorité présidentielle. Écoutons un extrait de l'arrêt lu par le président de la Cour, Benoît Louamba.
La Cour, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, dit que pour consacrer le principe de la continuité de l'État, affirmé par l'article 69 de la Constitution, l'article 70, alinéa 2 de la Constitution, permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu.
Le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Benoît Louamba, à Kinshasa. Et toujours concernant la RDC, l'opposant congolais Moïse Katumbi est entendu de nouveau aujourd'hui par un magistrat du parquet à Lubumbashi, au Katanga, dans le cadre d'une enquête pour recrutement de mercenaires. Candidat déclaré à la prochaine présidentielle, l'ex-gouverneur du Katanga qualifie de mensonge grotesque les accusations de recrutement portées contre lui et dénonce ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice pour le mettre hors jeu politiquement. En Centrafrique, les premiers actes du nouveau président Faustin Archange Touadéra plaisent aux Centrafricains. Il a fait une déclaration de patrimoine du jamais vu dans le pays. Et il a aussi visité le quartier musulman de Bangui sans garde rapprochée. Toujours concernant la RCA, le sous-préfet et le maire de Boda ainsi qu'un pasteur de la dite localité enlevé depuis 10 mois dans l'ouest du pays par des hommes armés non identifiés se trouvent toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Ces derniers donnent maintenant 3 jours à compter d'hier mardi mai pour obtenir satisfaction de leurs exigences sous peine d'exécuter les otages. L'ultimatum est lancé aux nouvelles autorités centrafricaines ainsi qu'aux parents. Souligne le pasteur Flavien Bolobo, coordonnateur des églises apostoliques, joint par Félix Yepassi Zembrou.
C'est depuis hier, environ vers 7h30, que nos frères qui sont dans la brousse m'ont appelé pour me dire que voilà, ça fait aujourd'hui 10 mois. Ça fait 10 mois depuis le temps de la présidente de transition qui était passée. Ils avaient reçu un vœu qui est jusque-là non réalisé. Et voilà qu'ils sont maintenant à l'époque du nouveau président, mais le nouveau président ne fait aucun cas de leurs soucis, quoi. Donc c'est pourquoi ils ont demandé aux frères qu'ils ont kidnappés pour qu'ils puissent appeler leur famille pour leur signaler que voilà, comme ça n'est ici, ça fait aujourd'hui 10 mois, il n'y a pas de suite, il n'y a pas quelque chose, alors d'ici 3 jours, ils vont les exécuter. Donc, c'est la nouvelle que j'ai reçue hier.
Qui sont ces hommes, pasteur? Qui sont-ils, ces ravisseurs?
Ces ravisseurs, selon les sources comme, qui nous parviennent, disent que ce sont des éléments de Demafoot. C'est ce qu'ils disent, les éléments de Demafoot.
Mais quelles sont leurs revendications?
Bien, en ce qui concerne leurs revendications, je n'ai pas des idées là-dessus, mais le gouvernement de la transition, c'est eux qui connaissent les revendications de nos frères là. Mais si eux, à leur niveau, si nous signifions leurs revendications, je crois que je suis en mesure de vous dire que voilà, leurs revendications, c'est ça.
Et que disent les autorités? Sont-elles au courant de cet ultimatum?
Les autorités sont au courant de cet ultimatum parce que ça fait depuis hier que nous avons essayé de toucher de gauche à droite afin qu'il y ait quand même un gain de cause pour que nos frères qui sont encore entre les mains de ces ravisseurs ne puissent pas leur faire du mal. Donc, jusque-là, on attend toujours, nous sommes patients pour voir ce que le gouvernement va faire.
Et vous, pasteur, personnellement, vous craignez pour la vie de ces 3 otages?
Oui, ce sont les responsables. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ce sont les responsables. Et des responsables comme ça, si de pareilles choses leur arrivent, je crois que c'est la famille sera en deux. Donc, on ne souhaitait pas, mais de notre côté, nous sommes en train de prier pour voir ce que Dieu peut faire.
le pasteur Flavien Bolobo, coordonnateur des églises apostoliques de Centrafrique. Au Kenya, le gouvernement a décidé d'allouer une enveloppe de 10 millions de dollars à la fermeture de l'immense camp de réfugiés de Dadaab d'ici mai 2017. Ce camp qui abrite essentiellement les réfugiés somaliens servirait de sanctuaire aux islamistes armés somaliens Shebab. Le point avec Eric Manirakiza.
C'est le ministre kényan de l'Intérieur qui a annoncé la décision devant la presse. Joseph Nkaiserry a invoqué des raisons de sécurité nationale mettant en jeu la sûreté des Kényans dans un contexte d'activités terroristes et criminelles. Pour réussir cette opération, le Kenya a déboursé 10 millions de dollars sans aucune aide extérieure. Le plan consiste à rapatrier les réfugiés dans leur pays d'origine ou dans des pays tiers pour s'y installer. Les premiers quitteront Dadaab dès novembre pour fermer définitivement le camp d'ici mai 2017. De nombreuses organisations internationales, dont l'OHCR, ont fustigé cette décision. Mais déjà, le gouvernement avait officiellement annoncé la semaine dernière qu'il ne souhaitait plus accueillir de nouveaux réfugiés sur son sol. Le camp de Dadaab, situé à la frontière somalienne, le plus grand camp de réfugiés au monde, accueille environ 344 000 personnes, dont 328 000 Somaliens, selon l'OHCR. Le gouvernement kényan considère que Dadaab est devenu un sanctuaire où les Shebab planifient et mènent des attaques contre les institutions du pays, ses installations et ses citoyens, une accusation jamais étayée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, on commence avec cette info de dernière minute de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Un camion de l'armée malienne a sauté sur une mine dans la région de Gao. Le convoi se trouvait sur l'axe Gossi-Ombori. On dénombre des morts et des blessés. Grève des magistrats au Niger. Les grévistes exigent des autorités de meilleures conditions de travail, mais aussi et surtout la réhabilitation de deux magistrats suspendus par le ministre de la Justice. Cet arrêt de travail largement suivi hier en est à sa deuxième journée et paralyse le secteur de la justice dans le pays. Le Nigeria ne demandera pas d'excuses au Premier ministre britannique David Cameron pour avoir qualifié le géant africain d'extraordinairement corrompu, mais plutôt le retour d'actifs frauduleux cachés au Royaume-Uni par des Nigérians. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui son président Muhammadu Buhari lors d'une conférence anticorruption à Londres, Nani Talani.
Le Premier ministre britannique David Cameron avait plus tôt cette semaine glissé à la reine Elisabeth II que des dirigeants de plusieurs pays extraordinairement corrompus étaient attendus à Londres. Le Nigeria et l'Afghanistan, peut-être les deux pays les plus corrompus du monde, avait-il ajouté. Suite à ces propos qui pourraient paraître offusquants, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré « Je ne vais pas demander d'excuses à qui que ce soit ». Tout ce que je demande, c'est le retour des actifs. M. Buhari a aussi remercié le Royaume-Uni pour avoir aidé le Nigeria à récupérer des actifs volés, planqués à l'étranger, citant à ce propos le cas de l'ancien gouverneur de l'État pétrolier de Bayelsa, interpellé à Londres en 2005 pour blanchiment d'argent. Mais il a souligné que le rapatriement d'actifs frauduleux est fastidieux, onéreux et chronophage, et a lui-même qualifié la corruption au Nigeria d'hydre à plusieurs têtes.
La course à la Maison-Blanche continue aux États-Unis dans le camp républicain Victoire mardi dans les primaires du Nebraska et de Virginie occidentale du milliardaire Donald Trump qui reste seul dans la course après le retrait de ses adversaires. Par contre, dans le camp démocrate, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton continue de se battre contre le sénateur Bernie Sanders qui a vaincu Mme Clinton à la primaire de Virginie occidentale. Lionel Gaïma.
Les chaînes de télévision ont déclaré Sanders vainqueur sur Clinton dans cet état où la quasi-totalité des votants étaient blancs, selon le sondage de sortie d'urne. Cet électorat blanc reste le point faible de Hillary Clinton, qui a bâti son succès électoral depuis le 1er février, principalement sur les minorités noires et hispaniques, ainsi que sur les femmes. Mais cette défaite ne remet pas en cause sa probable investiture. Seuls 29 délégués étaient en jeu mardi et ils seront repartis à la proportionnelle. Et Hillary Clinton mène largement dans la course aux délégués. Avec 2224 délégués avant cette primaire, elle était proche de la majorité absolue de 2383, tandis que Bernie Sanders n'en avait que 1448 selon l'estimation de CNN. Côté républicain, Donald Trump, candidat probable du Parti républicain à la présidentielle, a remporté les primaires de Virginie-Occidentale et du Nebraska, un résultat sans surprise puisque tous ses rivaux s'étaient retirés de la course la semaine dernière. Leurs noms apparaissent toutefois sur le bulletin de vote.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Merci et bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.